très régulière qu'on a pour des pays affectés avec le virus Zika, et on a beaucoup de ça en ce moment. Ce sont des protections individuelles, des vêtements longs, essayer de rester dans des bâtiments pendant le temps que le moustique pique, protection par les organisations ou par l'État. Ça veut dire essayer d'éradiquer des places où les moustiques restent, où ils sont, effacer des places avec de l'eau où ils peuvent vivre, pour établir la protection personnelle et la protection générale. Pour tous les voyageurs, et spécialement pour le continent d'Afrique, en ce moment, il faut être protégé pour éviter que cette infection se transporte. Mais en même temps, c'est important de savoir qu'avec une infection comme Zika, c'est difficile de se protéger complètement, parce qu'on a déjà trouvé dans 74 pays de monde. À ce moment-là, on peut bien estimer qu'à un certain moment, sur tous les endroits où se trouvent des moustiques Aedes, alors tous les pays où se trouvent de dengue, de chikungunya, de fièvre jaune, on peut estimer d'avoir Zika à un certain moment. Alors, ce n'est pas très inexpecté.
L'OMS a également renforcé les recommandations de protection sexuelle dans le cadre de son plan d'action contre le virus Zika. Quelles sont ces nouvelles recommandations ?
Absolument. Alors, en ce moment-là, on dit que toutes les personnes qui viennent d'un pays ou sont dans une zone qui est infectée par les virus Zika, rester prudent et de pratiquer des contacts sexuels protégés pendant 6 mois. C'est égal pour des femmes ou pour des hommes, et c'est égal si on est enceinte ou non. Alors il faut rester prudent, parce qu'on a trouvé des cas différents pour que le virus reste dans le corps des hommes ou des femmes, et cette évidence-là nous dit que c'est mieux d'augmenter cette temps de vigilance.
Voilà, vous l'avez dit, le virus est transmis par des moustiques ou lors de relations sexuelles et il n'existe toujours aucun vaccin ni aucun traitement contre Zika, n'est-ce pas ?
C'est absolument juste. Malheureusement, on n'a pas de vaccin à ce moment-là, mais il y a à peu près une trentaine des organisations, des instituts, des universités qui travaillent sur le développement d'un vaccin. Alors, on est bien sûr qu'on va avoir un vaccin à un certain moment, mais pas dans cette année, même pas peut-être en 2017. Mais voilà, c'est pourquoi le vaccin prend du temps. Avec tous les tests qu'il faut faire, avec des choses éthiques qu'il faut observer aussi. Et jusqu'à ce moment-là, la protection personnelle, c'est la chose plus importante.
Christian Lindmayer, porte-parole de l'OMS, était en ligne de Genève, en Suisse. Nouvelle découverte scientifique apporte de l'espoir dans la lutte contre le paludisme. Le point faible du parasite responsable de l'infection aurait été identifié et les expériences menées sur des souris concluantes. Le compte-rendu d'Anastasie Tudiesch.
Le paludisme, dû à un parasite transmis par les piqûres de moustiques, touche plus de 200 millions de personnes chaque année. Une fois qu'il a infecté son hôte humain, le Plasmodium falciparum, nom scientifique du parasite, évolue en plusieurs étapes, de l'infection du sang à l'infiltration du foie où il mûrit, puis pénètre à nouveau le sang qui l'infecte. Il détruit alors les globules rouges, libérant dans le sang des milliers de parasites filles qui envahissent les autres cellules, perpétuant le cycle de reproduction et d'infection. C'est lors de ce dernier stade que les symptômes du paludisme apparaissent. Très forte fièvre, transpiration excessive, nausées et diarrhée. Plus d'un demi-million d'individus succombent, la plupart sont des enfants, en Afrique subsaharienne. À chaque étape de son évolution, le Plasmodium falciparum, qui peut devenir résistant aux médicaments, change. La plupart des traitements visent l'une ou l'autre des étapes. Mais les chercheurs du Broad Institute dans le Massachusetts et de l'université Harvard ont isolé un élément qui semble être le talon d'Achille de la maladie, selon Stuart Schreiber, membre fondateur du Centre biomédical.
We did discover a novel protein that's Nous avons découvert une nouvelle protéine fabriquée par le parasite, une protéine dont il a besoin pour les trois étapes de son cycle de vie, et aussi une série de nouveaux composants qui pourraient inhiber la dite protéine.
Stuart Schreiber et ses collègues ont publié leur découverte dans le journal Nature. Après avoir découvert la protéine, les chercheurs ont recensé 100 000 petites molécules à partir desquelles ils ont synthétisé une douzaine de composants qui semblent bloquer la synthèse de la protéine, et ce, à chaque étape de son développement, ce qui tue le parasite, sur la souris témoin du moins. Les souris n'ont présenté aucun signe d'infection pendant un mois, délai considéré comme un signe de rémission. Quand les chercheurs ont tenté d'infecter des souris avec le sang de rongeurs anciennement contaminés, ils ont constaté qu'elles n'avaient pas développé de paludisme. Le composant que les scientifiques ont testé était une prise unique, par voie orale. Stuart Schreiber ajoute, prudent, que ce qui est efficace sur une souris ne l'est pas forcément sur un humain. Mais il y a de l'espoir.
So I'm the eternal optimist. And on the other hand,
je suis un éternel optimiste, mais je sais que des grands défis nous attendent et aussi de grandes inconnues qu'on ne pourra régler qu'en faisant des expériences.
Des expériences qui comprennent l'analyse des 12 composants, comment ils fonctionnent, combien de temps et si des résistances se développent contre l'un de ces agents prometteurs. En théorie, Schreiber dit que le médicament, qui est efficace aux trois étapes du paludisme, peut être pris à tout moment du cycle, à la fois comme un traitement et comme prévention. Les chercheurs notent que les patients peuvent rester infectés, même sous traitement. Les informations sur ces composants anti-paludisme sont disponibles pour les chercheurs, en ligne et gratuitement.
Les épidémies de fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo sont sous contrôle. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'affirme. Les premiers cas de fièvre jaune ont été détectés en décembre 2015 en Angola. L'épidémie s'est ensuite propagée en RDC et quelques cas importés ont également été notifiés en Chine et au Kenya, faisant craindre à l'OMS une épidémie majeure. Pour en parler, John Linden a pris contact avec Tariq Jasarevic du bureau de l'OMS à Genève.
Comme vous le savez, et on l'a déjà dit plusieurs fois, on a entrepris une deuxième campagne de vaccination dans les deux pays qui ont connu l'épidémie de la fièvre jaune, donc en République démocratique du Congo et Angola, où on a réussi à vacciner près de 12 millions de personnes, notamment à Kinshasa, où on a réussi en moins de deux semaines de vacciner 7,7 millions de personnes dans la capitale de RDC. Et aussi, on a mené cette campagne de vaccination dans la zone frontalière entre les deux pays dans le but de vacciner et immuniser le plus grand nombre possible de personnes avant l'arrivée des saisons de pluie. Cela s'ajoute à des campagnes de vaccination qui ont été déjà faites depuis le début de l'épidémie en Angola. En Angola, on a réussi à vacciner au total, y compris donc avec cette dernière campagne, plus de 15 millions de personnes, ce qui nous a amené à une situation où on n'a pas eu de nouveaux cas confirmés de fièvre jaune en Angola depuis le mois de juin. Et on estime que c'est un succès qui a été fait par tout d'abord les autorités sanitaires d'Angola, avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on ait d'autres cas, d'autres foyers dans d'autres pays? On sait qu'il y a eu l'Angola et la RDC.
Oui, tout à fait. Il y a un risque qui est réel et qui augmente, en fait. Donc, cette dernière épidémie de fièvre jaune est la première, en fait, qui s'est déclarée dans les grandes villes, comme Luanda ou bien Kinshasa. Ça nous dit que, en fait, avec l'urbanisation, avec une plus grande mobilité, avec aussi les changements climatiques, on peut s'attendre dans l'avenir d'avoir plus des cas de fièvre jaune dans tous les endroits où le vecteur, donc le moustique, habite. On sait que fièvre jaune est endémique dans plus de 40 pays, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, il faut se préparer à ce qu'il y ait dans l'avenir plus de cas, et il faut préparer donc une réponse qui comprendrait notamment la vaccination des populations dans les zones à risque, aussi l'introduction de la vaccination contre la fièvre jaune pour les enfants dans les pays où la maladie est endémique, mais aussi préparer les grandes villes à cette possibilité d'avoir des cas de fièvre jaune. C'est pour cela que l'OMS a organisé une réunion hier avec partenaires, effectivement pour voir comment s'attaquer à ce problème de fièvre jaune dans l'avenir.
Quels conseils pourriez-vous donner aux populations pour éviter des cas de contamination?
Ben, déjà, il y a la nécessité d'être vacciné, d'avoir le carnet de vaccination contre la fièvre jaune pour tous ceux qui voyagent vers les pays où la maladie est endémique. Donc, cette obligation de vaccination pour les voyageurs est renforcée par les autorités dans beaucoup de pays. Il faut donc aussi que, de notre part, on travaille avec les producteurs de vaccins pour s'assurer qu'il y ait une production augmentée pour pouvoir donc essayer d'immuniser plus de gens à travers donc la vaccination de routine pour les enfants, mais aussi dans les campagnes préventives dans les zones à risque.
Tariq Djassarevic de l'OMS nous parlait depuis Genève. La Guinée redouble d'efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et pour cause, le taux de prévalence des MGF dans le pays est de plus de 96% d'après les derniers chiffres disponibles. Nathalie Barge s'est entretenue avec la ministre guinéenne de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Sanaba Kaba.
On est en train de se battre pour reprendre le sondage en 2017 et j'espère qu'on va trouver un chiffre totalement en deçà de ce chiffre. On est sur le terrain, on continue à mener des enquêtes et même on va dans le groupe des femmes pour savoir quelle est la position de ces femmes par rapport à ce phénomène. Il n'y a pas plus que le lundi passé, nous étions dans la plus grande commune de la capitale. Je vais parler de la commune de Makoto, qui est même la plus grande commune de notre pays, qui a bénéficié d'une petite assistance de notre département pour organiser une campagne de sensibilisation dans la commune. Là, on était très surprise. La salle a adhéré à toutes les explications qu'on donnait. Et ces femmes sont des femmes leaders. 50 personnes qu'on a mobilisées pour leur donner des arguments nécessaires pour pouvoir convaincre leur base. Toutes ces femmes, chacune individuellement prise, peut avoir une centaine de femmes derrière elles. Tout ça fait des espoirs pour nous, elles viennent. Ça veut dire déjà qu'on adhère à l'idée.
Alors, quelle est la peine requise en Guinée, selon la loi, pour quelqu'un qui pratique ou qui fait pratiquer l'excision?
La condamnation varie de 3 mois à 5 ans. Nous bénéficions du soutien total et indéfectible du ministère de la Justice. Quand il y a des alertes, tout de suite, quand ils sont informés, ils se joignent à nous vraiment pour prendre les dispositions nécessaires. Je pense que ça, c'est déjà un atout. La rigueur de la loi, ça va se suivre. Nous sommes dans les processus.
L'interdiction de l'excision n'est-elle pas inscrite dans le Code de l'enfant?
Bon, maintenant, on est en révision du Code de l'enfant et il y a le Code civil qui est en train d'être révisé et puis on est en train de tenir compte de tous ces facteurs pour vraiment nous rendre plus forts et plus réactifs sur le terrain.
Au téléphone depuis Conakry, c'était Sanaba Kaba, la ministre guinéenne de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Les scientifiques ont fait un pas de plus vers le développement d'un vaccin efficace contre le VIH. Le vaccin expérimental est conçu pour recycler le système immunitaire du corps et diriger un assaut total contre un ennemi complexe, le virus qui cause le sida. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Voilà 30 ans que des chercheurs essaient activement de formuler un vaccin contre le virus causant le syndrome immunodéficitaire acquis, le sida. Aucun succès jusqu'ici. La raison? Eh bien, les mutations du VIH sont rapides. Le virus change aussi d'apparence, ce qui en fait une cible mouvante pour les scientifiques engagés dans la recherche d'un vaccin. Par contre, chez une faible quantité de gens infectés, on a découvert que l'organisme produit ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. Après quelques années d'infection, le système immunitaire de ces individus apprend à identifier les mutations virales, augmentant les anticorps qui bloquent naturellement le VIH dans ses différentes formes. Les scientifiques ont essayé d'exploiter le potentiel de ces anticorps neutralisants et de traduire ces connaissances en un vaccin qui pourrait induire les anticorps chez l'homme pour lutter contre le virus en constante évolution. Après de nombreuses années de travail, les chercheurs disent qu'ils ont fait un grand pas même si ce n'est qu'une première étape vers le développement d'un vaccin. Dans une collaboration à grande échelle entre les chercheurs d'un certain nombre d'institutions, ils ont créé un vaccin expérimental qui pourrait favoriser la production des anticorps neutralisants. Des expériences ont été faites à l'aide de souris dont l'organisme imite le système immunitaire humain et les résultats décrits dans 5 articles ont été publiés simultanément par les revues Cell, Immunity et Science.
And in several of the papers, this is shown that this approach works.
Frederick Alt est directeur de programme en médecine cellulaire et moléculaire à Boston Children's Hospital. Il a dirigé les travaux créant ce modèle de souris.
It teaches the B cells to produce more diverse and more effective humanized antibodies, and eventually they can get to a neutralizing stage. So this is new.
Le docteur Alt explique comment cette approche apprend aux lymphocytes B à produire des anticorps plus divers et plus humanisés. Éventuellement, ils peuvent atteindre une phase plus neutralisante. Donc, c'est une nouveauté. Compte tenu de la multiplicité de versions VIH, des millions, il faudrait une immunisation en série. Il est encore trop tôt pour faire des prédictions, mais cela a le potentiel de changer totalement les règles de production de vaccins et vaincre finalement cet ennemi redoutable, le virus VIH.
La maladie de Parkinson est généralement décelée trop tard pour permettre un traitement efficace, mais un nouveau test oculaire pourrait la diagnostiquer beaucoup plus tôt. Nathalie Barge nous en dit davantage.
La plupart des gens souffrent de la maladie de Parkinson pendant des années sans le savoir, car elle est progressive, causant des dommages aux cellules nerveuses dans le cerveau qui affectent le système nerveux central. Le nouveau test oculaire observe les changements dans la rétine. Il a été développé par des chercheurs de l'Institut d'ophtalmologie de l'University College de Londres. Tout d'abord, les scientifiques ont injecté à des rats un produit chimique qui provoque la maladie de Parkinson. Une fois qu'ils ont vu les changements dans leur rétine, ils ont traité les rats avec un médicament antidiabétique qui aide à protéger les cellules nerveuses et qui pourrait potentiellement être utilisé pour traiter la maladie. Le docteur Eduardo Mormando, ophtalmologiste, est l'un des spécialistes impliqués dans cette recherche.
En injectant la roséglitazone à ces rats, nous avons pu voir un effet de sauvetage du produit dans ce spécimen, d'abord dans l'œil, puis dans le cerveau.
La maladie de Parkinson affecte une personne sur 500, comme le défunt boxeur Mohamed Ali. Ce test de la rétine pourrait déboucher sur des informations importantes, se félicite docteur Francesca Cordero.
Il pourrait prédire que certaines personnes ont besoin d'un second diagnostic qui dira si elles ont la maladie de Parkinson ou non, et vous pourriez continuer à utiliser ce test pour non seulement surveiller la progression, mais aussi vérifier si le traitement est efficace. Et c'est énorme.
Des essais cliniques du test oculaire vont bientôt commencer. À nouveau, docteur Cordero.
Si vous avez décelé les effets sur la rétine bien avant ceux sur le cerveau, alors vous pouvez réduire la durée des essais cliniques et utiliser cela comme un très bon marqueur de réussite du traitement. Mais à long terme, nous pensons que cela pourrait être un moyen d'essayer de voir si les patients vont avoir la maladie de Parkinson.
Et dans l'avenir, ce type de test pourrait être effectué au cours d'un examen oculaire régulier, envisagent les scientifiques.
Pratiquer une activité physique régulière pourrait en partie compenser les risques accrus de décès liés à la consommation d'alcool. C'est ce que révèle une étude publiée récemment dans la revue British Journal of Sports Medicine. De plus amples détails avec Lionel Gaïma.
Les auteurs précisent qu'il s'agit seulement d'une étude observationnelle et qu'il ne faut pas en tirer des conclusions définitives, d'autant que certains facteurs comme l'alimentation ou le mode de consommation de l'alcool n'ont pas été prises en compte alors qu'ils pourraient avoir un impact sur les résultats. En étudiant les réponses fournies par quelque 36 000 Britanniques de plus de 40 ans ayant répondu à des questionnaires de santé entre 1994 et 2006, les chercheurs ont constaté sans surprise que la consommation importante d'alcool était liée à un risque accru de décès toutes causes confondues. Et plus la consommation était élevée, plus le risque de mourir d'un cancer était important, même lorsque la consommation totale d'alcool par semaine ne dépassait pas le maximum recommandé en Grande-Bretagne, soit 14 unités par semaine pour les femmes et 21 pour les hommes. Cette recommandation a depuis été revue à la baisse pour des hommes qui ne doivent pas non plus dépasser 14 unités par semaine. Une unité correspond à 8 grammes d'alcool, soit 25 millilitres de spiritueux, une demi-pinte de bière ou un demi-verre de vin. En faisant intervenir l'activité physique, les chercheurs ont découvert que le sur-risque de décès chez les buveurs était diminué, voire parfois annulé chez ceux pratiquant au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou intense par semaine. Chez ceux n'atteignant pas ce seuil, en revanche, le risque de décès restait étroitement corrélé à la quantité d'alcool consommée. 150 minutes d'activité physique par semaine est la durée recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour améliorer la santé et prévenir l'obésité de maladies cardiovasculaires ainsi que certains cancers. Nos résultats fournissent un argument supplémentaire en faveur du rôle de l'activité physique dans la promotion de la santé de la population, même en présence de comportements plus malsains, relèvent les chercheurs dans l'étude dirigée par le professeur Emmanuel Stamatakis de l'Université de Sydney. Pas question pour autant de boire, sans compter en tablant sur le sport pour compenser. Et ce, pour une longue liste de raisons, explique le professeur Kevin McConaughey de l'Université britannique Open. Parmi celles-ci, il cite les modifications du risque de décès qui ne seraient pas liées à l'activité physique, mais à d'autres facteurs comme le mode de consommation régulière ou sous forme de binge drinking ou biture express, ou encore à des modifications de comportement intervenues pendant la durée de l'étude. Pour le professeur Matt Field de l'Université de Liverpool, il est vraisemblable que les gens déjà malades soient moins actifs que les gens en bonne santé, ce qui peut également fausser les résultats.
Par satellite, drone ou par ballon, les entreprises technologiques cherchent à connecter davantage les parties du monde mal desservies par Internet. Mais ces stratégies non conventionnelles comportent des risques, comme l'a démontré l'explosion spectaculaire au début du mois d'une fusée lors de son lancement en Floride. Les détails avec Bagassi Koura.
La fusée qui a explosé à Cap Canaveral le 1er septembre était destinée à transporter un satellite qui permettrait d'améliorer la connectivité Internet en Afrique subsaharienne. La société Facebook prévoyait utiliser le satellite pour étendre ses services gratuits et à faible coût. Certains de ces services ont eux-mêmes été sous le feu de la rampe cette année. Le service de Free Basics de Facebook a été interdit en Inde en février suite aux critiques des défenseurs de net neutralité. Free Basics offre un accès à une suite limitée de sites, y compris des sites homologués de santé, d'éducation, de météo et de communication. Et bien sûr, Facebook sans frais de données pour toute personne ayant un smartphone. Lorsque les régulateurs indiens ont interdit ce service, ils ont aussi interdit aux fournisseurs de services de facturer des prix différents pour différents niveaux de services. Selon les critiques, Facebook ne devrait pas être le gardien qui décide pour les utilisateurs d'Internet. Mais le service est disponible dans 48 pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Il a été déployé en mai au Nigeria, un pays où si vous voulez une très bonne connexion Internet, il faut payer très cher. Habituellement, seules les grandes entreprises et les gens riches peuvent se permettre cela, dit Baïs Bachir, chef de la FlexiSaf, une société de technologie de l'éducation basée à Abuja au Nigeria. Avec son service express Wi-Fi qui relie les utilisateurs à un hotspot local pour une somme modique, Facebook affirme avoir mis plus de 25 millions de personnes en ligne dans le monde et qui autrement ne le seraient pas. Alors que l'explosion du satellite de Facebook a été un revers, la société a d'autres plans pour apporter l'Internet dans les zones mal desservies. Le mois dernier, Facebook a annoncé un essai réussi d'un drone solaire conçu pour rester en vol pendant des semaines et fournir un accès Internet dans les régions éloignées.
Et voilà, point final à ce numéro de Carrefour. Un grand merci aux collègues qui nous ont aidés à le produire. Lionel Gaïma était à la réalisation. Jacques Aristide au micro. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Très bonne suite de programme sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.